Paula,
Vin
et Compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Bonjour lectrices et lecteurs, auditeurs et auditrices. Une nouvelle saison s'ouvre avec ce chapitre 1 du tome 3 de Polar, Vin et Compagnie, en toujours bonne compagnie, puisque sont avec moi une partie du gang des Bordelais, qu'on prenne qui pourra. Florent, alias La Fouille, Guy, dit La Bricole, et bien sûr notre complice Nico, au volant de ce numéro de Polar, Vin et Compagnie.
Salut les copains.
Bonjour. Bonjour.
Alors messieurs, on était riche en lecture.
On a lu beaucoup de nouvelles cet été, parce que nous avons eu 72 nouvelles à lire pour le concours de nouvelles de l'association.
Concours de nouvelles auquel on consacrera notre prochaine émission.
Tout à fait. Après quelques lectures, notamment, il a fallu que je lise Goffin en urgence, puisqu'il y en a qui se faisait arracher les dents. Il fallait que je le remplace potentiellement.
Bon, ben moi j'ai beaucoup lu, et pas seulement des nouvelles. Et du polar, du thriller.
Ouais,
je me suis un peu avancé sur le prix Robin Cook, et je me suis dit, il faut lire.
Pour parler des nouvelles, les nouvelles lauréates, alors tu disais qu'il y en avait 72, il y a un jury effectivement qui en a choisi
5 plus un coup de cœur.
Et ces nouvelles seront lues sur les prochains chapitres de Polar, Vin et Compagnie. Tu parlais, Florent, du prix Robin Cook qui prend cette année un virage important, en tout cas pour l'année 2026, avec une sélection plus spécifique.
Oui, le prix Robin Cook va faire peau neuve en quelque sorte. Et dorénavant, on va plus se concentrer sur des premiers romans, qui seront des polars ou des thrillers, des romans à frissons. En fait, on veut recentrer le prix Robin Cook sur ce qui a fait son naissance, puisque on a souvent, je pense, découvert des auteurs, ou en tout cas on les a mis en avant, et là, maintenant, on veut vraiment mettre en avant les autrices et les auteurs francophones dont le premier roman a été édité dans l'année et qui soit un polar. L'ambition de l'association serait de partager avec le public aveyronnais les talents naissants de la littérature policière. Voilà, c'est l'objectif principal et on espère répondre à l'esprit curieux qui caractérise les Millavois et les Aveyronnaises et Aveyronnais.
Chaque année, il y avait plus ou moins un ou deux premiers romans qui étaient choisis. Et ouais. Je me rappelle, c'est Corinne Hinault qui avait écrit Solac, qui était un premier roman.
Et polar, qui avait gagné.
Et qui avait eu le prix en 2020
ou 2021.
En tout cas, cette année, en 2025, plusieurs événements ont été organisés par l'asso Cap Polar en septembre. Nous respectons la chronologie en parlant d'abord de Jazz et Polar au Viala du Tard qui s'est déroulé les 12, 13 et 14 septembre avec une journée spéciale Polar le samedi 14 soutenue par le Fonds de développement de la vie associative et dont l'invité était Louise Oligny. Après un court résumé de son premier roman Colère chronique paru chez Black Lab, Louise Oligny se livre à nous et nous en explique la genèse. Un matin, Diane apprend aux infos en écoutant la radio que son directeur de rédaction, M. Dufaille, a été tué dans un attentat. Ce qu'il faut savoir, c'est que Diane est photoreporter et que le fameux Dufaille, avec lequel elle a travaillé de nombreuses années, l'a licencié quelques jours avant. Alors, doit-elle s'effondrer ou à l'inverse se réjouir tant elle a maudit cet homme ces derniers jours et fantasmé même, peut-être espéré, sa mort ? D'autant plus que, accro aux anxiolytiques et abusant d'alcool, certains soirs de déprime, elle n'a qu'un très très vague souvenir de sa nuit passée. Il va s'en suivre un certain nombre d'événements tragiques qui ne vont pas la rassurer. Coïncidence, complot, le doute est permis. Alors, pourquoi ce premier roman et pourquoi un polar ?
Déjà les polars, parce que j'adore les polars, que j'en ai lu beaucoup. Et c'est parti quand même d'une histoire un petit peu vraie, parce que c'est vrai que j'ai été photographe longtemps pour un magazine et que j'ai été licenciée de façon assez abrupte, mais comme beaucoup de journalistes photographes dans ce monde où on trouve que les lois qui protégeaient les journalistes, les cartes de presse, en tout cas pour les photographes, donc qui assuraient qu'ils soient payés en salaire. On est dans un monde où l'auto-entrepreneuriat, ou en tout cas, coûte moins cher, et donc on essaie de ronger de plus en plus les droits. Et les photographes sont quand même aux premières lignes. Donc, c'est une histoire qui m'est arrivée à moi, mais qui est arrivée, je dirais, à presque tous mes collègues photographes de ma génération, du moins. Et donc, j'étais très mal, très en colère. Et c'est vrai que j'écrivais des choses et, entre autres, j'envoyais des petits bouts de ce que j'écrivais à une amie, que c'était des espèces de SOS. Et elle me répondait qu'elle trouvait ça très drôle. Et je me suis dit, je vais en faire un roman. Voilà, un coup de tête comme ça, et je me suis mis à écrire, et peut-être aussi par politesse, moi, de façon de parler, parce que c'est je pense que Colère chronique, moi, je le trouve très drôle, en tout cas irrévérencieux. Et j'ai passé par l'humour, le roman policier aussi, qui est plus, j'allais dire, littérature populaire, mais dans ce que tout ce qui est de populaire, de très, très beau. Et donc, ça me permettait de parler, voilà, des rapports de force dans cette société, mais aussi des rapports de force entre humains et puis de déraillement et de recherche d'une personne qui se ramasse dans une crise à un moment donné de sa vie.
Pour ma part, moi, j'ai adoré. Je te l'ai déjà dit. Ouais. D'abord, la forme, mais tu viens d'expliquer un petit peu, c'est-à-dire celle d'un journal ou d'un blog qui nous permet de suivre Diane et les autres protagonistes de l'histoire presque jour après jour. Je trouvais ça audacieux. L'histoire... En plus d'être féroce, on reviendra sur ce terme de féroce, c'est drôle. Et puis Diane, on a tous une copine à qui elle nous fait penser, un peu borderline, pleine de vie, comique, parfois même un peu chiante en fait.
Elle est chiante.
Tu as un peu expliqué comment tout ça s'était construit dans ta tête.
Ouais. Ben, elle est chiante, mais moi je voulais pas d'un personnage, j'aime pas les personnages parfaits. Non, j'aime pas les gens parfaits, déjà dans la vraie vie, même si ça existe pas. En tout cas, j'aime pas les gens qui lissent, disons. Déjà, je trouve qu'on... Par les failles, on va vers quelque chose d'un peu plus vrai. Donc, je voulais pas d'un personnage qui se fait, voilà, qui est la bonne photo reporter, qui témoigne et qui se fait licencier, qui se ramasse avec rien et dans lequel on compatit. Parce qu'au début, elle-même fait partie de ce système-là. Elle est elle-même un peu snob. Elle trouve que, elle fait partie de la presse, elle travaille... La précarité, c'est pour les autres, c'est loin, c'est quelque chose qu'elle photographie. Et une des grandes parties de sa dépression, parce que je pense qu'on peut parler de dépression dans son cas, en tout cas de ce qui arrive, c'est aussi de se rendre compte qu'une barrière qu'elle pensait impossible à franchir elle est en train de la franchir parce qu'elle a des économies, mais là, elle est dans un système, elle se rend compte qu'à 55 ans, elle n'a pas su de retrouver du travail. Et que ça va être loin, la retraite, et puis qu'elle n'aura probablement pas non plus les trimestres pour avoir la retraite. Donc, elle se rend compte qu'elle va tout à coup, elle, basculer dans un monde de précarité. Et sa vision du monde, même si c'est très féroce, c'est très par la colère, sa vision du monde est en train de changer. Donc, elle commence aussi à comprendre... les gens autour d'elle qu'elle regardait un peu de haut, tu vois. Mais juste pour un truc que je veux dire aussi, c'est pas un livre qui fait l'éloge, en tout cas la colère dans le sens que c'est... Il y a une phrase que j'ai entendue que je trouvais assez belle qui disait que la colère, c'est une punition qu'on se fait à soi-même pour les torts de quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas un éloge de cette colère-là. Hein. Je dirais plus que c'est un éloge de la résistance ou de la... C'est plus dans ce sens-là.
Dans son deuxième roman, ADN féminin, toujours chez Black Lab, Louise Oligny situe son intrigue et l'enquête qui s'ensuit dans une sphère dans laquelle elle est très impliquée, celle des femmes victimes de violences. Alors là, c'est un polar plus conventionnel, il y a meurtre. Le roman commence par la découverte d'un cadavre lors d'un spectacle organisé par une association de défense des femmes. Cadavre qui se révèle être celui d'un truand condamné pour violence conjugale. Alors, qui dit meurtre dit enquête policière, mais tout ça semble être qu'un prétexte à rester dans le social et traiter d'un autre fait de société, les violences faites aux femmes, justement. Alors, on y retrouve Diane, qui n'a pas changé par rapport à ton premier roman et qui met un sacré bordel dans la quête menée par une autre femme, la capitaine ouais. Coralie Gignac. Alors, un rapport particulier entre ces deux femmes, deux visions qui s'affrontent.
Je ne sais pas que c'est deux visions qui s'affrontent. Moi, je voulais parler de la justice, parce que c'est vrai que dans la vraie vie, je travaille auprès des femmes victimes de violences et je trouve que la justice n'a pas inventé un arsenal de moyens qui correspond à la réalité des violences faites aux femmes. On regarde juste au niveau des viols, tu vois, 94% des... Je pense même 96%. J'ai de la misère avec les chiffres. Hein. Si je dis des chiffres, vous pouvez aller vérifier. Les chiffres que je donne, c'est grosso modo, mais sont classés sans suite. Et même ceux qui ne sont pas classés sans suite, il y en a très, très peu là, qui aboutissent à l'incarcération du violeur. Hein. En France, là, t'es mieux de violer des femmes que de fumer du cannabis ou de te faire arrêter avec du cannabis. Là. C'est ridicule. Donc, il n'y a pas les arsenals qu'il faut. Donc, moi, je voulais avoir un personnage pour questionner aussi la justice. Donc, le personnage de Coralie, elle est policière et elle essaie de respecter une morale. Parce que après tout, on vit dans une société et c'est vrai que quand on répond oui, mais si on n'y a pas de présumé innocent, comme on fait, moi je réponds oui, mais si on a deux personnes parole contre parole, puis il y en a un qui est présumé innocent et donc l'autre est présumé menteur, on n'arrive pas à trouver des solutions. Mais en même temps, je pense que c'est vraiment une réflexion de société à avoir parce que c'est important la justice, et c'est important qu'il y ait des règles, des lois. Et Coralie croit, elle, à ses règles et à ses lois, ce que Diane ne croit pas. Elle, Diane, elle pense qu'il y a une vérité et qu'il faut s'arranger pour s'affranchir du côté un peu boiteux des lois pour arriver à la vraie vérité. Et Coralie, elle, a été victime dans le passé des conséquences des lois, parce qu'il y a des dossiers qui le suivent où il y a une personne, alors je pense que c'est pas un gros scoop de le dire, qu'une des femmes a fini par se suicider parce que elle a tellement suivi la loi que cette femme n'a pas été crue. Donc c'est quelque chose que ce personnage, Coralie, elle porte. Mais malgré tout, elle essaie de croire à un système. Je dis elle essaie parce qu'on voit bien que c'est un problème moral pour elle. Et j'aimais bien ce personnage qui a ce problème, qui a aussi ce problème par rapport à ses croyances ou en tout cas par rapport à un système qu'elle essaie de porter. Et par rapport à Diane qui vient faire exploser dans tous les sens.
Ouais, qui est un petit peu un freelance mais qui veut quand même faire aussi une forme de justice, enfin, qui veut.
Qui veut faire une forme de justice, mais est-ce que, tout se pose la question de qu'est-ce que c'est la justice et comment on fait.
Tout en la contournant, enfin, voilà.
Elle la contourne pas mal, oui.
Une actualité littéraire, Louise?
Oui, j'en ai un que je viens de finir d'écrire avec mon éditrice et une éditrice qui m'aide beaucoup à repenser certaines choses, à revoir les incohérences, Christine Fleury. Et on a pratiquement fini. Donc, mais par contre, j'ai pas de date de sortie, mais Diane revient. Avec les Red Hot Chili Peppers pour le troisième. Voilà, petit scoop.
Qu'est-ce qui t'a fait accepter cette invitation à venir au Viella du Tarn, au milieu de nulle part, où on t'a dit, tiens, il y a un festival qui s'appelle Jazz et Polar au Viella du Tarn?
Là, tout est dit, Jazz et Polar. C'était pour moi, je l'ai pris personnellement. Je me suis dit, mon Dieu, ils ont inventé un festival pour moi. J'aurais été vexée qu'on ne m'invite pas. C'était... En plus, il va y avoir le stage de jazz avec un grand musicien. Donc, je vais pouvoir m'y remettre et dans un contexte... Et puis, en plus, j'adore la région. J'avoue que c'est vrai que j'aime beaucoup cette région.
Alors, Louise Oligny a animé un atelier d'écriture le samedi après-midi, donc pendant ce festival Jazz et Polar au Viella du Tarn. Vous y avez participé, tous les deux?
Oui.
Et c'était comment?
Bien. Très bien, même.
Très bien.
Et instructif.
Ouais, et assez amusant.
Oui, c'était
ludique. La manière dont ça a été organisé, en fait, par Louise Oligny.
Je pense que c'était plutôt un jeu d'écriture qu'un atelier d'écriture, d'ailleurs.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire?
Parce que on expliquait la structure d'un texte, hein, c'est ça? Avec un personnage, un événement, un lieu, un mobile, qu'est-ce qu'il y avait
Un sens.
Et chacun a choisi un sens qu'il a écrit, enfin, chacun des thèmes écrits sur un papier.
Tiré au sort.
Et après, tout ça s'est mis dans une corbeille, et puis on a tiré au sort, et on s'est retrouvé à devoir faire un texte sur... moi, j'avais un petit bonhomme de 1m60. métis. Attends, ouais. Qu'est-ce qu'il avait de 60 ans. Et il devait faire ceci ou cela. Et en fait, chaque fois, on a dû construire un texte par rapport à ces morceaux de la phrase. Ouais. Et c'était assez intéressant. Donc, il y a des textes qui sont sortis qui étaient de grande qualité.
Et on a fait une petite lecture après. Et donc, voilà. C'était ouais. Très bien.
Le lendemain, ça a été enregistré. Mais on n'en a que trois sur l'ensemble des participants. Parce qu'il y en a qui avaient effectivement, c'était pas prévu. Et puis, il y en a qui avaient laissé les devoirs à la maison.
Il y en a qui ont été rappelés après, surtout.
Voilà, on écoute Louise Olini qui introduit. Et puis, en suivant, on écoute les nouvelles qui ont été écrites ce jour-là.
Alors, nous avons des participants qui ont oublié leur texte aujourd'hui, donc on va vous lire trois des textes qui ont été produits. Alors, il y avait des contraintes qui étaient une salamande sous une pierre, et à partir de ça, de construire une histoire. Il y avait un personnage d'un policier de 1m60, il y avait une voyante, il y avait une adolescente en crise. Alors, Valérie, la première.
La cliente régla 60 euros pour la séance. Claire Forsythe accusa le coup, elle était épuisée. Cette heure de voyance avait exigé d'elle une énergie considérable. Heureusement, la femme paraissait satisfaite. Claire se fit un thé et décida d'aller en forêt marcher et se ressourcer, recouvrer ses forces. Depuis quelques jours, en effet, elle avait du mal à dormir, enchaînant les rêves et les visions indéchiffrables. Elle chaussa ses chaussures et enfila son manteau, sortit un bonnet sur la tête. Une bise glaciale lui fouetta le visage. Décidément, l'hiver n'en finissait pas. Elle marcha d'un pas décidé vers la forêt. Cette dernière paraissait étonnamment sombre, alors que le soleil timide perçait les nuages aux épars. Elle salua son voisin, qui, comme chaque jour, s'affairait au jardin. Elle gravit le sentier et se dirigea vers le rocher qu'on appelait « la femme allongée ». Ses pensées étaient confuses, mais s'apaisaient enfin. Son esprit ne trouvait pas le repos depuis des jours. Des visions la traversaient, des sensations désagréables. Et le plus étonnant étaient les couleurs. Le noir, l'éclat, la brillance, comme un soleil noir, l'or. Cela lui rappelait quelque chose, mais impossible de mettre des mots dessus. Enfin parvenue au sommet, elle savoura les paysages qui s'offraient à elle, splendides. Elle souffla enfin, respira profondément et sentit son cœur s'apaiser. Quelque chose attira son attention. Oui, quelque chose bougeait, non loin, d'une pierre. Elle pensa à un serpent, puis se ravisa, on était en hiver. Soudain, s'approchant d'une pierre, elle aperçut. Non, pas cela. La vision, cet éclat, le noir et l'or, non, pas cela, non. Mais oui, bien sûr. Tout lui revint en mémoire. Et elle s'évanouit. Une salamandre, figée, luisante, la regardait étrangement. Tout lui revenait en mémoire quand elle reprit ses esprits. Tout était limpide maintenant. Elle desserra la mâchoire, le poing serré, murmura ces mots. « Croyez-moi, vous allez le payer cher. » Elle quitta la salamandre, la remerciant au passage. Un seul but désormais l'habiterait et sa vengeance allait s'abattre sur chacun d'eux.
Et maintenant, Florent.
Elle n'aurait jamais pu supporter cette situation plus longtemps, de toute façon. Et ce n'est certainement pas cette conne qui lui servait de mère qui aurait pu éviter que la situation n'empire. Quoi qu'il en soit, il était hors de question de faire marche arrière. Quoi qu'il en soit, il était trop tard pour faire marche arrière. Elle caressa avec douceur le haut du crâne ensanglanté de son père, ce crâne chauve qu'elle avait tant effleuré, petite, jusqu'en endormissement. Son regard s'égara sans émotion sur le corps de sa mère, près du jeu d'échecs en marbre italien. Elle se tourna vers Andréi, retira délicatement la reine blanche de sa gorge rouge. Ce professeur, ce maître qu'elle avait tant chéri depuis ses 6 ans, 11 années à être consacrée à être la meilleure d'entre nous, comme lui répétait son père matin, midi et soir, coincée dans le souvenir de ce titre perdu en finale des championnats nord-américains de Blitz, plein de rêves de compétition victorieuse. Mais c'était fini maintenant. Elle ne voulait plus, elle ne pouvait plus. Elle n'aurait jamais supporté qu'Andréï quitte la maison définitivement, qu'il aille enseigner ailleurs. Cette séparation, comme ça, telle qu'elle, elle l'a refusée. C'est elle qui avait choisi le moment, et elle seule seulement. Adieu André, adieu papa, adieu maman. Maintenant que sa crise de folie était passée, elle pouvait à nouveau respirer calmement. Elle s'assit devant le jeu, posa la reine blanche, déplaça le fou et attendit.
Et maintenant, je vais lire la nouvelle de Michel Bourdais. Quand l'immeuble s'est effondré, les riverains sidérés, sous le choc, ont quand même commencé à creuser pour trouver des survivants. Mais non. Rapidement, les pompiers sont arrivés, puis la police. Olivier est de garde quand son téléphone a sonné. Il était attablé en famille devant un énorme port de Paris-Brest. Il en a dégusté une bouchée seulement et ce putain de téléphone a sonné. Et maintenant, il est là, dans sa ville de Marseille. Et du haut de ses 1,60 m, il complante ses amas de béton et de ferraille, ses corps allongés sur des civières, des hommes, des femmes, des enfants. Et tout cela par la faute des promoteurs immobiliers et de la mairie qui ont laissé s'aggraver la vétusté de tous ces bâtiments afin de les acheter pour rien et de les revendre, reconstruire à prix d'or. Olivier sent que sa bouchée de Paris-Brest lui remonte aux lèvres et il vomit contre un pan de mur resté debout. Tiens, une salamande est cachée sous un caillou. Apparemment, c'est la seule survivante.
C'était Libra de Marcus Hill à la trompette, Makaya McRaven et Corey Fonville à la batterie, Joel Ross au vibraphone et au marimba, Michael King au piano et Junius Paul à la basse. Merci Louis Oligny pour cette découverte musicale très jazz et polar. Et maintenant que nous avons la musique, Kelvin nous a conseillé Louise pour accompagner la lecture de Colère chronique ou ADN féminin.
Il y a trop de gens qui ne savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Louise Zoligny nous a conseillé un domaine qui s'appelle le domaine Lanny Barac et nous sommes avec Bernard. Bonjour Bernard.
Bonjour à tout le monde.
Sans tradition familiale vigneronne, Mélanie ostéopathe en Corse et Bernard sommelier en Australie. Comment on arrive à Murviel-les-Béziers, enfin en tout cas à côté de Murviel-les-Béziers et dans l'appellation Saint-Chinian?
J'étais sommelier avant d'être vigneron. Et j'ai toujours beaucoup aimé les cépages du sud de la France, les Syrah, les Grenache, les Carignans, les beaux cépages méditerranéens. Dans mon activité sommellerie, j'ai pu goûter beaucoup de belles choses. À force, le projet a grandi de devenir vigneron. Et nous avons trouvé notre bonheur dans le Languedoc, puisqu'on est en agriculture biologique et biodynamique. Et ce climat ici offre des bonnes conditions pour faire ce genre d'agriculture avec du vent, du soleil, et on a la chance d'avoir un joli terroir de schiste. Puis le foncier est encore accessible ici dans le Languedoc, donc c'est comme ça qu'on a atterri sur cette belle appellation Saint-Chinian. Dans un premier temps, on cherchait une propriété d'un seul tenant, qui est très rare, surtout dans leur pays, et on a trouvé notre bonheur sur la commune de Saint-Nazaire-de-la-Darèze. C'est là où se trouve le vignoble et notre cave se trouve sur la commune de Murviel-les-Béziers.
Alors avec un concept assez différent, c'est peut-être justement de ne pas être issu du milieu agricole. Vous parlez d'une ferme viticole, une vitifarm.
Tout d'abord, quand nous sommes arrivés face à notre exploitation d'aujourd'hui, qui est principalement composé de coteaux. Donc dans une agriculture biodynamique, on travaille bien sûr avec aucun produit de synthèse, pas de pesticides ni d'herbicides. Mon épouse, elle, donc, qui fait partie du projet, on a créé le domaine en 2012. Elle, son projet de vie, c'était l'élevage. Donc on a créé la Vitifarm, donc viticulture et ferme, farm pour la ferme. Et nous avons, si vous voulez, combiné nos deux passions, l'élevage et la viticulture. Donc aujourd'hui, si vous voulez, nos animaux, donc principalement des vaches de race Galloway et Angus, parce que nous sommes aussi éleveurs pour la viande, ces animaux aujourd'hui nous aident sur la pré-taille, la fertilisation et l'entretien de nos parcelles de vigne, puisque nos animaux sont en totale liberté entre octobre et mars, donc dans notre vignoble. Comme je vous disais, nous avons un vignoble d'un seul tenant, ce qui nous permet de faire de la vraie biodynamie, une belle biodiversité. On n'est pas pollué par nos voisins. Et ça, c'est pour nous le concept de la Vitifarm et l'agriculture biodynamique.
Alors, la question que je me posais, c'est, bon, on connaît les difficultés des viticulteurs, des vignerons, bon, avec effectivement ce cortège de suicides, hélas. Alors, est-ce cette Vitifarm, est-ce la ferme du futur ou en tout cas un nouveau système agricole, même si j'ai l'impression qu'il reprend en fait des techniques plutôt ancestrales?
Exactement, c'est des techniques ancestrales, on n'a rien inventé. Hein. À l'époque, tout le monde avait une ferme pour travailler la terre, les bœufs, les ânes, les chevaux. Mais on en revient, et ça c'est super, on voit de plus en plus d'animaux dans les vignes aujourd'hui. On voit beaucoup de moutons. Et nous, ce qu'on a voulu créer, voilà, c'est vraiment un écosystème agricole complet où la vigne, la terre et les animaux vivent en harmonie. C'est un modèle durable et possible avec, voilà, en alliant l'écologie, faire des vins de qualité et être en autonomie agricole.
Alors justement, revenons au vin. Bon, les cépages, vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure, c'est les cépages caractéristiques de ces régions du Languedoc-Roussillon.
Oui, avec... 5 cépages principaux sur l'appellation Saint-Chinian, on va être sur les Syrah, les Grenache, les Mourvèdre, les Carignan et les Saint-Sauf. Voilà, il faut savoir que Saint-Chinian, c'est principalement production de vin rouge à 80%, rosé à 15% et 5% de blanc. Donc voilà, nous, on produit principalement des vins rouges.
Alors, j'ai vu quelques noms de vins, le Cochon Lunatique... Bêtes et méchants, alors jeu de mots, méchants, M-E-S, plus loin, C-H-M-P-S.
Oui, on aime bien le jeu de mots, oui. Oui, parce que nos cuvées sont en relation soit avec nos animaux, soit avec le terroir, ou avec un lieu dit.
Les vins du Languedoc, on peut les boire un peu en toute occasion, c'est-à-dire le blanc peut-être pour l'apéro. Je sais pas, vous avez des conseils particuliers ou...
Ce qui est extraordinaire avec les vins du Languedoc, c'est que aujourd'hui, le vignoble languedocien est devenu un peu un Eldorado pour tous les néo-vignerons, puisque, comme je vous disais, on a un climat fantastique, on a une multitude de terroirs différents pour ainsi créer des profils de vins complètement différents, avec des cépages, ici dans le Languedoc, on peut planter beaucoup, beaucoup de cépages différents, et ça va apporter une palette aromatique grandiose pour élaborer des vins dans tous les styles. Mais voilà, moi ce que je trouve vraiment superbe dans les vins du Languedoc, c'est que ce sont des vins qu'on peut boire sur la jeunesse, avec beaucoup de fruits, du peps, de la générosité, la fraîcheur, et ce sont aussi des vins qui ont suffisamment de tanins et de corps, et voilà, on est sur dans le sud, donc avec des degrés d'alcool entre 13 et 14 qui leur permettra de devenir aussi des vins de garde. Et surtout aussi, là où ça change beaucoup, c'est que les vins du Languedoc aujourd'hui, sur le marché international, puisque nous aussi on exporte pas mal, on est sur des super rapports qualité-prix qualitatifs. Quand on compare à beaucoup de vignobles français ou dans le monde, le Languedoc a énormément remonté la pente en termes de qualité, et un superbe rapport qualité-prix. Ouais.
Ah oui, tout à fait. Ça donne envie de visiter votre concept de ferme, en tout cas la ferme viticole. Vous organisez, des sortes de portes ouvertes où si on veut venir vous rencontrer, parce qu'on ne va pas venir comme ça, parce que vous avez quand même un métier. Vous organisez parfois
alors,
des visites?
Non, oui, bien sûr. Alors, nous avons même créé cette année un nouveau concept de nos tourismes, que j'ai appelé Vitichef. Donc, comme je vous disais précédemment, on est aussi éleveur de bovins. Nous produisons également de la viande. Donc, dans notre offre de nos touristiques, de mai à octobre, j'organise, c'est visible sur le site internet, j'ai plusieurs offres. Donc, j'offre des balades vigneronnes, des dégustations de notre gamme de vins, mais voilà, une dégustation un petit peu plus poussée, puisque j'étais sommelier, donc on rentre vraiment dans une dégustation sensorielle avec comment déguster un vin, on rentre vraiment en profondeur là-dessus. Et pour ceux qui veulent faire durer le plaisir, nous offrons également un menu barbecue, bras zéro, sur la terrasse qui surplombe notre vignoble, en mangeant une belle pièce de viande de notre élevage bovin, certifié bio également, bien sûr.
Ça donne envie. Pour avoir plus de renseignements, éventuellement pour réserver et vous rendre visite, donc c'est évidemment un site internet, www. Alors je vais l'épeler parce que c'est une orthographe pas facile. Donc c'est Lanye, ouais. Lanye, tiré du 6, Barac, BA2RAC.fr. Voilà, Lanye-Barac.fr. Ben, merci Bernard de nous avoir consacré ce temps et puis le bonjour à Mélanie.
Merci à vous, c'est très gentil.
En complément de ce PVC, donc Polar Vin et Compagnie, vous pouvez retrouver Louise Ouligny dans L'Actuel, où Sophia évoque avec elle son travail artistique pour aider des femmes à se reconstruire, expérience qu'elle a décrite dans un livre coécrit avec Clémentine de Pontavis, Réparer l'intime. Vous pouvez également écouter l'interview complète de Louise dont nous avons tiré quelques extraits pour cette émission, et surtout celle réalisée par Florent, qui avait quitté son imper mastic d'inspecteur d'Hérif, interview autour de Perdre Pays, son dernier roman paru chez une toute jeune mais prometteuse maison d'édition, Pélagie. Ce moment à partager avec Louise est à retrouver dans nos podcasts sur notre site radiolarzac.org comme l'ensemble des émissions de Polar Vin et Compagnie.
Et à noter qu'elle est aussi sur la page de l'émission, puisque en tête de page maintenant, il y a les hors-séries de Polar Vin et Compagnie, et que Louise Ouligny fait partie de ces hors-séries.
Quand j'avais dit que Nico était le pilote. Mmh. C'est terminé pour ce premier chapitre du tome 3 de Polar Vin et Compagnie. Merci Florent.
Merci à vous, merci Nicolas, Guy. William.
Merci à toi.
Et merci Nico.
Avec plaisir. Merci, Nico.
Et on se retrouve dans 15 jours pour écouter quelques nouvelles.
Bisous.